Monsieur le Président, au nom de tous les salariés de Fontaine Pajot, je veux vous souhaiter la bienvenue dans notre entreprise. Cette visite est un encouragement pour notre métier. La France est numéro un dans le monde dans la construction de voiliers et cette visite montre l'intérêt que vous portez à cette profession. Cette visite tombe bien en termes de date, puisque aujourd'hui, ce jeudi, commence à Newport, aux États-Unis, le salon nautique, à Oslo, en Norvège, un salon nautique, à Southampton, en Grande-Bretagne, un salon nautique, à Cannes, un salon nautique, et au Grand Pavois de La Rochelle, qui a commencé hier matin, un salon nautique. Donc nous avons une exposition en termes d'image commerciale très importante à cette période de l'année, et notre entreprise expose à tous ces salons. Nous avons des équipes aujourd'hui aux États-Unis, nous avons des équipes actuellement en Norvège, bien sûr à Cannes et au Grand Pavois. Notre exportation, c'est 80% de notre activité. Nous sommes une entreprise qui est exposée aux marchés mondiaux, comme d'autres, mais avec sa caractéristique de petite moyenne PME. Vous avez choisi de faire votre visite sur le thème de l'intéressement et de la participation. Nous ne revendiquons aucun caractère d'exemple ni de modèle dans ce domaine. Nous considérons que chaque entreprise doit construire sa politique en fonction de ses caractéristiques propres. Notre expérience depuis 2002 en termes d'intéressement est la suivante. Je vois les délégués syndicaux qui sont présents. On a eu d'abord une première formule qui a généré des sommes très modiques. Ça n'a pas marché. Il a fallu atteindre un certain seuil pour que d'une certaine manière, les salariés disent « ce mécanisme fonctionne ». Alors le mécanisme que nous avons mis sur pied est simple. À partir de 6% d'excédent brut d'exploitation, un demi-mois de salaire tombe. Et au-delà, c'est proportionnel au résultat. Donc il y a à la fois le critère aléatoire nécessaire dans la loi pour l'intéressement, mais une forme de filet de sécurité pour que les salariés n'aient pas zéro en intéressement dans des années qui seraient simplement médiocres. Donc un premier critère, d'essayer d'avoir un seuil d'intéressement qui démarre à un niveau suffisamment acceptable. Deuxième élément, que l'intéressement ne soit pas lié à des facteurs impondérables pour le personnel. Si on met le résultat net dans l'intéressement, toutes les variations des devises vont générer soit des produits financiers, soit des pertes financières, qui sont bien sûr pas imputables au personnel. Donc construire un mécanisme qui se rapproche le plus possible de la réalité économique quotidienne de l'entreprise. Voilà l'expérience que nous avons acquise dans ce domaine. Nous avons mis aussi sur pied un autre mécanisme permis par la loi, les distributions gratuites d'actions. Les seuls qui en sont exclus sont ceux qui ont déjà plus de 10% du capital. Donc voilà un mécanisme intéressant et la suggestion que l'on pourrait faire sur ce mécanisme, c'est de dire qu'il est un peu long. 2 années entre la période où le conseil d'administration après négociation décide, 2 années pour faire jouer son action, ça fait 4 ans, plus la période de discussion. Tout ça paraît très loin à un certain nombre de salariés. Si sur ce dispositif nous pourrions réduire les délais de mise en place et également de possibilité de cession par le personnel, je pense que ce dispositif serait également plus immédiatement demandé, souhaité par le personnel. Je vous le dis très clairement, tous les mécanismes qui iront dans ce sens, nous les mettrons en œuvre. Tout ce qui permet de développer une entreprise, nous le mettrons en œuvre. Et permettez-moi de dire qu'en 1999, quand les lois sur les 35 heures sont apparues, nous avons été dans les premiers à la mettre en œuvre, parce que cela exigeait dans notre entreprise de s'organiser différemment, vous avez pu le voir, et que personne dans notre entreprise souhaite revenir en arrière sur les 35 heures. On est une entreprise en mouvement. Cette entreprise est née il y a 30 ans, ici, monsieur le maire, c'était des champs. Nous avons construit cette entreprise par étapes, ce mouvement va continuer. Nous allons continuer à investir. L'an prochain, dans les salons, ce sera 4 nouveaux modèles que nous présenterons. Nous allons continuer à innover sur le plan technologique, créer de nouveaux produits, discuter avec le personnel pour que cette démarche soit comprise. Et nous allons aussi aller chercher des clients très loin, parce que quand on exporte l'atout, c'est de pouvoir lisser les événements de conjoncture locale et de pouvoir garder un assez haut niveau d'activité. Voyez, monsieur le Président, je me suis strictement exprimé en tant que chef d'entreprise. Simplement, je n'oublie pas que j'ai aussi une casquette régionale à la région Poitou-Charentes. Et le seul sujet que je voudrais brièvement évoquer, et la crise dans le monde de l'ostréiculture. La plupart d'entre nous connaissons cette difficulté. C'est une crise très lourde et j'appelle à votre arbitrage pour que l'État puisse aller un petit peu plus loin dans ce domaine. Nous considérons vraiment que les milliers d'emplois qui sont des gens de la mer, un peu comme nous, nous fabriquons des bateaux, nous sommes dans le même environnement, puissent bénéficier d'un soutien renforcé de l'État. Il est bien évident que le Conseil régional accompagnera l'effort à sa juste part. Voilà, je voulais simplement, en présence, en votre présence, Monsieur le Président, qui est également aujourd'hui Président de l'Union européenne, dire à tous les salariés ma fierté de piloter cette entreprise avec un personnel motivé qui forme un excellent équipage. Merci.
Mesdames et messieurs, je voudrais, monsieur le président, je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous. Je suis heureux pour plusieurs raisons. La première, c'est que je crois à la nécessité absolue de garder sur le territoire national des unités de production. De production. Tout le monde me dit les services, bien sûr. Mais le jour où on n'aura plus les usines, on n'aura plus les ouvriers, on n'aura plus la production, les services se mettront à la disposition de qui? Alors évidemment, ce n'est pas une usine classique, mais c'est une usine au sens où on produit. Et c'est capital de garder une production. J'étais il y a quelques jours à Saint-Nazaire, on ne fait pas exactement le même style de bateau, mais ce sont des bateaux, c'est le monde de la mer comme vous, et à quoi servirait-il à la France de border la Méditerranée, l'océan Atlantique, la Manche, et d'abandonner la construction de navires, quel qu'en soit le gabarit et quelle qu'en soit l'utilisation. J'ai été de ceux d'ailleurs qui ont bien regretté qu'Alstom se sépare des chantiers de l'Atlantique. On profitait du fait que j'étais plus au gouvernement pour le faire, mais moi j'ai demandé à l'État, au gouvernement, de prendre un pourcentage du capital des chantiers de l'Atlantique. On doit conserver sur le territoire national ce savoir-faire. Et vous avez parfaitement raison, Monsieur le Président, c'est le monde de la mer. Et le monde de la mer, il est solidaire. La réforme des ports, conduite par Dominique Bussereau, ça fait partie de ça. Moi, je ne peux pas accepter un système, et je le dis au monde de la mer, à vous, où le nombre de conteneurs qui circulent dans le monde augmente chaque année et le nombre de conteneurs qui arrivent dans nos ports diminue. Il ne faut pas l'accepter. C'est pas possible. Donc on a décidé de réformer les ports, d'investir dans le chantier de Saint-Nazaire et de soutenir les unités de production sur le territoire national. Et c'est bien de montrer que la France est compétitive sur des produits qui sont fabriqués, imaginés, conçus en France. C'est la première raison de ma présence. La deuxième, c'est que dans cette entreprise, vous avez fait le pari, et le mérite revient aux chefs d'entreprise, aux partenaires sociaux, aux ouvriers, aux salariés, de faire l'intéressement et la participation. Alors je vais annoncer dans quelques minutes des décisions très importantes en la matière. Pourquoi? Parce que ça fait 50 ans qu'on parle de l'intéressement et de la participation. Ça fonctionne bien dans les grands groupes, mais autre raison de ma présence, ça fonctionne moins bien dans les PME. Pour une raison assez simple, c'est que c'est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, ça ne l'est pas dans les entreprises de moins de 50. Vous êtes plus de 50. Mais, vous savez, quand on parle du monde des PME, en vérité, il y aurait beaucoup à dire sur la classification. Moi, je pense qu'une entreprise de 400, elle est plus proche d'une très grande entreprise, puisque vous exportez sur tous les continents, que d'une entreprise de quelques personnes. Et donc, le pari que je voudrais faire, c'est un, donner accès à la participation et à l'intéressement à tous les salariés. Parce que celui-là qui travaille dans une entreprise de moins de 50, il travaille autant que celui qui travaille dans une entreprise de plus de 50. C'est parfaitement inégalitaire de prévoir que les uns y ont droit et les autres n'y auraient pas le droit. Au seul prétexte de la taille de l'entreprise, le salarié y est pour rien. de la taille de l'entreprise. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que les sommes distribuées ne sont pas négligeables, Monsieur le Président, puisque c'est de l'ordre de 7 milliards en participation, 6 milliards et demi pour l'intéressement. J'ai un objectif, doubler les sommes consacrées à l'intéressement dans notre pays en 4 ans. Les doubler. Pourquoi les doubler ? Parce que c'est la seule façon, entre les heures supplémentaires, j'y reviendrai, défiscaliser pour les entreprises comme pour les salariés. 6 millions de salariés français qui en profitent. 40% d'heures supplémentaires en plus. Et l'intéressement, on peut répondre à la question angoissante du pouvoir d'achat. Si le salarié contribue à la richesse de l'entreprise, par son travail, par son intelligence, il est normal qu'il participe aux bénéfices générés dans l'entreprise. Et c'est un élément de la compétitivité de nos entreprises, le fait qu'un salarié, qu'un ouvrier, qu'un collaborateur qui se rend dans l'entreprise se dit « il ne m'exploite pas, si ça va mieux pour l'entreprise, ça ira mieux pour moi aussi ». Chaque centime d'euro qui sera engagé en plus pour l'intéressement fera l'objet d'un crédit d'impôt pour l'entreprise de 20%. Chaque centime d'euro. Et comme je souhaite que ça s'applique dès maintenant, une entreprise qui donnerait une prime exceptionnelle dans le cadre de l'année 2009 pourrait se la voir appliquer le crédit d'impôt tout de suite. Il y a une deuxième chose que je vais annoncer que je détaillerai à la table ronde tout à l'heure. Et c'est en regard avec les 35 heures.